Mathias Wanneau retrouvera-t-il la présidence de la province des îles? La séance publique pour renouveler l'exécutif de la province est toujours en cours. Il faut que les parlementaires se forgent une conviction sur l'accord de Bougival. C'est le but de 9 députés Ensemble pour la République qui entament une visite de 5 jours sur le territoire. En Suisse, le corps des 40 victimes de l'incendie de Crans-Montana ont été identifiés. Parmi eux, 9 Français. Les 2 gérants de l'établissement sont sous le coup d'une instruction pénale devant la justice. Après l'arrestation par les États-Unis et l'exfiltration de Nicolas Maduro, les choses vont vite. Le désormais ex-président vénézuélien comparaîtra la nuit prochaine pour nous devant la justice américaine. Et puis la contestation populaire ne faiblit pas en Iran. De nombreux observateurs parlent d'un pays au bord de l'explosion. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se prolongera par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Côté Info Sport National, nous reviendrons sur la récente journée de championnat de France de football de Ligue 1. Les derniers matchs se sont joués ce matin.
Exactement, avec en point d'orgue cette victoire du Paris Saint-Germain sur le Paris FC. Le derby de la capitale qui faisait son retour, hein, ça n'était plus arrivé depuis 1978. Victoire tout de même, évidemment, du PSG, le grand favori. Mais une belle confrontation et ça donne du baume au cœur du Paris FC qui retrouvera déjà le PSG, cette fois en Coupe de France.
Sur le territoire, l'événement c'est évidemment du tennis avec le début aujourd'hui du BNC Challenger.
Exactement, hein, et malheureusement hier lors du tournoi qualificatif, les jeunes calédoniens qui étaient engagés n'ont pas réussi à se hisser dans le tableau principal. Jalen Salin-Wuimont, Luan Boivin ou encore Nel Rollin qui se frottaient à des joueurs du circuit mondial. Désormais les premiers coups de raquette sont donnés pour le début du tour principal, évidemment, un événement qu'on vous fera suivre au plus près sur Radio Rythme Bleu.
Et puis dans le magazine des sports, nous parlerons aussi natation avec notre invité.
Oui, Stéphane Tichon, le conseiller technique de la Ligue calédonienne de natation, l'occasion eh bien, de faire le bilan d'une belle année hein, pour les nageurs calédoniens sur la scène nationale, internationale, mais aussi de se mettre déjà en marche pour les projets en 2026 et ce séminaire de formation des cadres qui est en cours hein, depuis ce week-end, évidemment, un objectif en ligne de mire, Tahiti 2027.
Voilà donc pour le sommet du magazine des sports à retrouver dès la fin de ce journal. Qui sera le nouveau président de la province des îles après l'imbroglio juridico-institutionnel créé par la condamnation de Jacques Lallier à une peine d'inéligibilité, puis à l'élection qui n'aurait pas dû avoir lieu selon le conseil constitutionnel de Mathias Wanneau pour lui succéder? Les conseillers sont réunis depuis 9h ce matin pour procéder à l'élection du président et des 3 vice-présidents de l'exécutif. On connaîtra donc dans la journée le nom du nouveau président de l'Assemblée de la province des îles. Toujours dans l'actualité politique, Johan Lecourieux, candidat au municipal 2026 à Dumbéa. L'actuel maire de la commune l'a annoncé aujourd'hui dans un courrier adressé à ses administrés. Au cœur de son projet, peut-on lire, une philosophie guidée par le vivre ensemble dans une commune marquée ces dernières années par des crises sanitaires, des tensions politiques et des fractures sociales. Johan Lecourieux, à la tête de la commune de Dumbéa depuis 2023, souhaite un développement économique, urbanistique et touristique concerté dans une ville sereine et sécurisé. Il s'agit du 3e candidat déclaré pour ces élections municipales à Dumbéa. Cynthia Jean, candidate loyaliste, et Muriel Malfar-Paoga, candidate sans étiquette, ont déjà déclaré leur candidature. Et puis des députés du camp présidentiel sont actuellement en visite sur le territoire. Depuis ce matin et jusqu'à vendredi, 9 parlementaires Ensemble pour la République, dont 4 anciens ministres, Prisca Thévenot, Antoine Armand, Guillaume Kasbarian et Marie Lebec, vont aller, Nicolas Legrand, à la rencontre des acteurs calédoniens.
Oui, rencontre alors que des discussions avec les élus calédoniens sont prévues le 16 janvier prochain à Paris, à l'Élysée, sur invitation du président de la République Emmanuel Macron. Ce matin, les députés ont entamé leur séjour en Nouvelle-Calédonie par un dépôt de gerbes à la Croix-de-Lorraine, en présence du maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Et pour le reste de la semaine, ils rencontreront les acteurs politiques, économiques, sociaux ou encore environnementaux. L'objectif, c'est de mieux connaître le territoire pour ensuite mieux défendre le projet d'accord à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous a dit ce matin le député du Tarn, Jean Terlier, membre de la délégation.
C'est un sujet, vous le savez, qui est très important. On est une délégation de 10 députés. Je crois que c'était assez inédit. On est tous représentatifs d'un certain nombre de commissions. Moi, par exemple, c'est la commission des lois. Et vous savez que c'est le sujet calédonien. La commission des lois, c'est évidemment un sujet qui est majeur. Il y a eu des accords récents, celui de Bougival. Il va y avoir un texte avec une navette au Sénat, à l'Assemblée nationale, qui va revenir et sur lequel on va devoir se prononcer. Donc c'est important d'avoir ces retours de terrain. C'est fondamental. Il va falloir évidemment que le Parlement, qui va devoir se prononcer dans le cadre de textes, se forge sa conviction sur ces accords de Bougival, et donc il faut maintenant que les choses avancent rapidement d'un point de vue institutionnel. Je crois que c'est attendu ici par la Nouvelle-Calédonie, mais c'est aussi les enjeux des découvertes qu'on va faire. On va attendre de voir ce que vont nous dire évidemment les élus ici sur place et puis les forces vives de ce territoire.
Une visite qui témoigne aussi de l'importance croissante que prend le dossier calédonien au sein de l'Assemblée nationale, dont la voix, et nous l'avons vu au cours des dernières semaines décisives, que ce soit pour le report des élections provinciales par exemple, ou encore le projet de consultation citoyenne. Les votes des députés font la différence, surtout lorsque le camp présidentiel peine à trouver une majorité, d'où la nécessité d'une visite de terrain à l'initiative du député Nicolas Metzdorf.
Écoutez, aujourd'hui l'Assemblée nationale, c'est quand même l'épicentre de la vie politique nationale. C'est l'Assemblée nationale qui a le pouvoir, qui décide finalement des lois et de ce que devient la France. Et la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui un sujet important, urgent, que doit traiter l'Assemblée. C'est les députés qui votent à la fois sur les reports des élections, à la fois sur le dégel du corps électoral, à la fois sur oui ou non à l'accord de Bougival. Et donc il faut qu'ils puissent voter en connaissance de cause. Donc je les ai cordialement invités à venir se rendre compte de la situation sur place. Et je suis très heureux que le groupe de Gabriel Attal, le groupe Ensemble pour la République, ait mobilisé autant de forces pour venir se rendre sur place, sachant que c'est le plus gros déplacement de députés jamais organisé en Nouvelle-Calédonie. C'est la première fois qu'il y a 10 députés qui sont ensemble sur le territoire.
Et après ce dépôt de gerbe à la Croix de Lorraine, la délégation s'est rendue au Sénat coutumier. Les députés qui doivent déjeuner ce midi avec la présidente de la province sud, Sonia Baquès, avant de rencontrer les groupes politiques du Congrès cet après-midi. Et à ce sujet, le député Jean Terlier a confirmé que tous les groupes politiques ont été invités à les rencontrer, mais tous n'ont pas répondu à cette invitation.
À 11h37, la première pause de ce journal. On se retrouve dans un instant pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Dans un cadre idyllique à Lansvata, le restaurant Le Fun vous invite à une expérience unique et conviviale. Découvrez le concept Steak Stone, viandes et poissons à cuire sur pierre chaude. Envie de fraîcheur? Craquez pour nos salades, suggestions de la semaine ou place à la carte. Le Fun, votre Steak Stone face à la mer, ouvert 7 jours sur 7. Info sur notre page Facebook Le Fun, réservation 28 67 08.
Savez-vous que si vous êtes équipé d'un chauffe-eau électrique, vous pouvez couper son alimentation si vous vous absentez plus de 24 heures afin de supprimer la consommation due au maintien de la température?
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Revenons en bref sur ce coup dur pour le comité organisateur de la foire de Bourail. Vous le savez, ces locaux situés sur le champ de foire Athénée ont été détruits samedi matin par un incendie qui a ravagé une grande partie du bâtiment. Selon Livaillerois, le président du comité de foire, l'origine criminelle ne fait aucun doute. Les portes des locaux ont été forcées à la barre à mine, la devanture taguée et des bouteilles d'alcool ont été retrouvées sur les lieux. Le comité de foire de Bourail a déposé plainte ce matin. Pour l'instant, les responsables de l'incendie sont toujours recherchés. Le comité doit rencontrer le maire de Bourail, la province sud aussi, pour discuter de l'organisation de cet événement populaire. Livaillerois l'a confirmé, le comité ne compte pas baisser les bras malgré les dégâts considérables. En 2025, 34 personnes sont mortes sur les routes de Nouvelle-Calédonie. C'est un décès de plus qu'en 2024, année marquée, on le sait, Nicolas, par les émeutes.
Et oui, et c'est surtout 17 vies en moins de fauchés qu'en 2023. Des chiffres commentés ce matin sur notre antenne par Mireille Munkel, la présidente de l'association Prévention Routière, qui était notre invitée du matin à 7h30. Elle estime que l'amélioration globale de l'accidentologie sur le territoire peut venir notamment de la présence accrue de forces de l'ordre sur les bords de route.
La difficulté aujourd'hui, c'est de déterminer une tendance de fond dans la mesure où les circonstances sont légèrement différentes par rapport à la situation en Nouvelle-Calédonie il y a 2 ans. Néanmoins, nous espérons que c'est une tendance de fond. En Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de circulation, notamment sur l'intérieur, pour des raisons diverses. Mais la crise économique étant là, il y a énormément de personnes qui ont du mal à se déplacer. Et le deuxième facteur important, c'est qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre et qu'elles sont très présentes. Et c'est un critère très intéressant pour la sécurité routière.
La peur du gendarme fonctionne ?
Ah oui, ça fonctionne.
En Nouvelle-Calédonie, les mauvais comportements sont toutefois en cause dans la plupart des accidents mortels. La consommation excessive d'alcool est présente dans 3/4 des drames. Le cannabis, 50% du temps, sans oublier la vitesse excessive et le non-port de la ceinture de sécurité. Mireille Munkel espère malgré tout que les nouvelles générations seront davantage sensibilisées. Et l'association Prévention Routière a d'ailleurs remporté pour cela un appel à projet national et travaille actuellement à la réalisation d'un jeu de société à destination des scolaires.
L'idée, c'est d'être ludique. Nous avons travaillé avec le vice-rectorat de façon à avoir un complément par rapport au programme scolaire et en effet que les enfants puissent s'approprier les messages et les connaissances de façon la plus ludique possible. En matière d'éducation, c'est l'option que nous choisissons, nous, d'essayer pour faciliter le transfert de connaissances.
Ça passe mieux que les images chocs, comme on a pu le connaître, ou c'est peut-être pas destiné au même public ?
Je pense que c'est pas le même public. Ça fonctionne dans certains pays, donc je dis pas que c'est mieux ou moins bien. À un moment, il faut faire des choix et nous préférons passer par l'humour. Nous avons notamment réalisé des petits films avec King Taz en essayant d'être en effet plus dynamique. C'est un des challenges de 2026 d'être plus présent sur les réseaux.
Et toujours pour sensibiliser les populations les plus jeunes, l'association Prévention Routière a pour projet d'acquérir cette année un deuxième simulateur de choc frontal pour faciliter les actions, notamment en province nord.
Prudence et sécurité également pour la baignade en cette période estivale. Après plusieurs attaques de requins ces derniers jours, il est important pour les baigneurs et les nageurs de pouvoir profiter des espaces protégés pour se sentir en confiance. C'est le cas pour ces Calédoniens rencontrés ce matin, Bédé Citron.
C'est rassurant. Avant, j'aurais dit non. Maintenant, j'ai 60 ans. J'ai peur. Plus en sécurité maintenant, oui. Avant, j'ai beaucoup plongé. D'aller loin, ça ne me faisait pas peur. Mais aujourd'hui, non, je préfère les filets et la sécurité.
Moi, j'aime bien venir me baigner à la baie des Citrons, d'une part parce que maintenant, oui, il y a les filets de protection. Et j'aime bien aller faire du palme masque tuba, faire du longe-côte. Donc, je me sens en sécurité.
C'est très sécurisant et ça nous met en fait en sécurité par rapport à certaines choses qui se passent maintenant dans la mer et autour de Nouméa et les environs.
On a un dispositif qui est pour la population, c'est sûr. Avant, on n'avait pas ça. Pour moi, c'est important pour la population.
Voilà, la mise en place de ces filets anti-requins permet donc aux habitants de continuer de se baigner et de nager en toute tranquillité. En bref, vers un statut d'entreprise adapté en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement souhaite faire évoluer les politiques publiques d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Une première réunion de travail s'est déroulée sous l'égide de Naya Wateu, membre du gouvernement chargé du handicap, du travail et de l'emploi, avec plusieurs directions, dont la DAS et des partenaires du secteur handicap. Une rencontre qui a permis de poser les bases d'un cadre de gouvernance et de financement. Les travaux vont se poursuivre dans les prochaines semaines pour structurer une phase d'expérimentation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. Êtes-vous entré avec optimisme dans l'année 2026 ? Si vous êtes entré avec optimisme, vous tapez 1. Si cela n'est pas le cas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Rendez-vous demain évidemment pour la réponse à la question du jour. En attendant, à 11h43, une nouvelle pause. Dans un instant, l'actualité à l'étranger notamment.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
L'Infomag continue avec le village automobile. Chevrolet, Citroën, DS Automobile, Great Wall, Haval, Isuzu, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Power et Subaru. Ces 11 grandes marques réunies sur un seul site avec des offres exceptionnelles. Rendez-vous au village automobile au BK4 à Nouméa.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag en retour, Jean-François Baudin.
Avec l'actualité à l'étranger, et la Suisse reste sous le choc après l'effroyable incendie d'un bar à cocktail dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana. Les corps des 40 victimes qui ont péri cette nuit-là ont tous été identifiés et parmi les victimes figurent 9 Français. Par ailleurs, 23 autres Français font partie des 119 personnes blessées dont certaines sont toujours dans un état grave. L'enquête de son côté avance et les deux gérants français de l'établissement sont sous le coup d'une instruction pénale devant la justice suisse. Elle recherche d'éventuelles failles de sécurité dans la gestion du bar. Jean-Luc Bougeon pour Europe 1.
Le premier élément qui pose question, ce sont ces mousses acoustiques posées au plafond du bar. Chacun a pu constater en visionnant les vidéos du drame la vitesse avec laquelle elles ont pris feu juste après avoir été touchées par les bougies à étincelles. Jamais elles n'auraient dû être utilisées dans un bar, estime Nicolas, conseiller technique en matière de protection incendie.
Pour moi, il y a négligence. Dans un bâtiment public comme il est là, on doit avoir un produit qui est quasiment ininflammable. Et là, on voit tout de suite que ça part avec des gouttelettes en plus incendiaires. Donc, on n'est clairement pas dans un produit qui est conforme à ce qui soit utilisé dans un bâtiment d'utilité publique. C'est quelque chose que vous mettez chez vous, si vous faites une petite salle de musique, mais pas ici.
Deuxième questionnement, y avait-il une issue de secours bien visible, une porte facile à déverrouiller pour s'échapper? Le témoignage de Paolo, qui a sauvé une dizaine de personnes cette nuit-là, ne va pas dans ce sens.
J'ai arraché la porte, en fait. Je peux pas dire si elle était fermée à clé ou si elle était simplement mécaniquement bloquée par quelque chose, mais elle s'ouvrait pas. Ce que je peux dire, c'est qu'elle était bloquée, il y avait des gens derrière.
Il y a trois jours, le propriétaire a indiqué que son bar avait subi 3 contrôles en 10 ans. Est-ce suffisant? Quelle a été la qualité de ces contrôles? Des questions s'adressent donc aussi au service communal qui a réalisé ces inspections. Hier déjà, le maire de la station écartait tout laxisme de ses services. Grand Montana, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et 4 jours maintenant après ce terrible drame, une messe a été célébrée à Crans-Montana en mémoire des victimes et pour soutenir leurs familles, messe à laquelle de très nombreux fidèles ont pris part.
Le recueillement de toutes les personnes présentes, on sentait que tout le monde était là pour participer à cette douleur. C'est très dur, c'est vrai que depuis que ça s'est passé, ça défile dans ma tête, c'est horrible.
C'est important parce que on connaissait des gens, c'était un petit canton, il y a beaucoup de personnes qui connaissent des gens qui ont perdu des enfants. Je connaissais des gens qui étaient dedans, qui habitaient dans ma ville.
Tellement douloureux, c'est tellement choquant pour nous. C'est des jeunes encore plus jeunes que nous, c'est tellement horrible. C'est des gens qu'on connaît, on a tous déjà été faire la fête dans ce bar. C'est horrible de se dire que ça aurait pu être nous aussi. C'est horrible. Tous ceux qui sont en train de souffrir à l'hôpital à l'heure actuelle, qui sont dans le coma, tous ces jeunes qui avaient encore toute la vie devant eux, c'est horrible.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. L'autre grand titre de l'actualité à l'étranger, c'est bien sûr la spectaculaire arrestation et exfiltration du désormais ex-président vénézuélien Nicolas Maduro au terme d'une opération américaine militaire dont Donald Trump ne cesse de louer l'efficacité. Depuis, les choses vont vite. Nicolas Maduro est dans une prison à New York et comparaîtra dès la nuit prochaine devant un tribunal pour narcoterrorisme et importation de drogue aux USA. Et 2 jours après cette opération spectaculaire, on en sait un peu plus sur les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée. Charles Bouchin pour Europe 1.
Avant sa capture, Nicolas Maduro aurait tenté de négocier son abandon du pouvoir. Il aurait exigé des États-Unis le maintien en place des structures politiques issues du règne Chavez. Une amnistie totale, 200 millions de dollars et un exil sécurisé vers la Russie ou Cuba. Inenvisageable pour Donald Trump qui a appelé son homologue vénézuélien l'incitant à partir de lui-même. Jean-Éric Brana, spécialiste des États-Unis.
Donald Trump a invité Maduro à quitter le pays pour ne pas avoir à subir les foudres américaines. Maduro aurait hésité et finalement aurait refusé, ce qui aurait déclenché l'opération, tout cela s'étant passé avant Noël.
Au Venezuela, c'est la vice-présidente Delcy Rodriguez, fidèle de Maduro, qui s'est vue confier l'intérim du pouvoir. Elle paiera plus cher que Maduro si elle ne fait pas ce qu'il faut, a déclaré Donald Trump. Delcy Rodriguez, qui s'est voulue rassurante lors d'un entretien avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. C'est ce qu'explique Jean-Éric Brana.
La négociation qu'il y a eu entre Delcy Rodriguez et Marco Rubio a convaincu Rubio qu'elle serait beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus malléable. Et désormais, on fait du commerce. C'était une opération transactionnelle.
Et oui, car outre la volonté d'éradiquer le narcotrafic, cette opération avait aussi pour but d'ouvrir les portes du Venezuela aux compagnies pétrolières américaines.
Et puis toujours à l'étranger, la contestation populaire ne faiblit pas en Iran. Nouvelle manifestation la nuit dernière pour nous et nouveaux affrontements avec les forces de l'ordre. Le principal objet de la colère des Iraniens, c'est la politique économique du régime, mais aussi le régime lui-même, accusé de brider les libertés. Une manifestation de soutien au peuple iranien a rassemblé plusieurs centaines de personnes. C'était la nuit dernière pour nous, à Paris, place du Trocadéro.
Il y a les jeunes de ma génération qui sont en Iran, qui sont sortis aujourd'hui dans la rue pour chercher leur liberté. Nous aussi, on est là pour la même raison, pour leur soutenir.
Moi, j'ai vécu mes 25 premières années en Iran, donc je connais très bien la souffrance des Iraniens. La situation économique est déplorable en Iran, le pays est pratiquement en faillite totale.
Le peuple demande le renversement de régime, le départ des ayatollahs. Là, ce n'est plus question de la vie chère, c'est départ des mollahs qui est souhaité par le peuple iranien maintenant.
Nous avons été les premiers victimes de l'islamisme dans le monde contemporain, et après 47 ans, il est temps que ça cesse. On voudrait que ça soit les dernières victimes qu'on voit aujourd'hui. On voudrait que dans 2 semaines, on puisse plus dire que la police a tiré à balles réelles sur les manifestants.
Et de nombreux chercheurs et spécialistes estiment que la situation est au bord de l'explosion générale en Iran. Un mot de l'actualité en métropole avec la colère des médecins libéraux. Avec leurs collègues des cliniques privées, ils doivent entamer la nuit prochaine pour nous une grève de 10 jours annoncée comme massivement suivie. Des médecins qui protestent contre le budget de la sécurité sociale qu'ils jugent insuffisant et craignent aussi que les négociations conventionnelles qui ont lieu tous les 5 ans ne soient pas respectées. Écoutez Anne Boctor, elle est présidente du syndicat Jeunes Médecins.
C'est un article qui donne les pleins pouvoirs au directeur de l'assurance maladie et qui lui permet, à lui et au ministère de la Santé aussi, de baisser les tarifs de remboursement de certains actes, et cela sans aucune concertation, et donc de manière unilatérale et donc autoritaire. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter en tant que professionnel.
Et la grève des médecins libéraux et des médecins des cliniques privées débute donc la nuit prochaine pour nous et doit durer a priori 10 jours, 11h51.